Chapitre 32. On a retrouvé un corps. Pas des corps, plutôt? Didi leva le nez de ses dossiers et trouva Phil sur le pas de sa porte. Il secouait la tête. Non. Un corps. À l'une des destinations indiquées par le GPS de Golding. Christy Kilker ou Nathalie Draga? C'est ce qu'on va aller voir. Par réflexe, Didi repoussa sa chaise pour se lever, mais elle s'arrêta dans son mouvement. Attends, c'est un test. Parce que j'ai entendu ce que tu m'as dit, tu sais. C'est vrai que je suis entêtée et dirigiste, que je devrais me reposer sur mes collègues et avoir davantage confiance en votre capacité de bien faire le boulot. Donc c'est toi qui vas aller voir le corps. Et moi, je vais sagement attendre ton rapport comme une bonne superviseuse en restriction d'aptitude. Et comme ça... Elle s'interrompit, elle-même surprise d'avoir soudain la gorge serrée. Comme ça, tu ne seras plus fâchée contre moi.
Je ne suis pas fâchée contre toi.
J'ai confiance en toi, tu sais, continua-t-elle tant qu'elle le pouvait encore, parce que le souvenir de sa conversation de la veille avec Phil était encore cuisant. Elle ne l'aurait jamais dit à voix haute, mais Phil était ce qu'elle avait de plus proche d'une figure paternelle de substitution dans la mesure où son propre père n'approuvait pas son choix de carrière. Ses parents vivaient en Floride et ne lui manquaient pas. Elle ne se souciait même plus du fait qu'il ne comprenait pas sa vocation. Mais Phil, l'avoir manifestement déçu, ça, c'était douloureux. J'ai confiance en toi, Phil. Et en Neil aussi. Et vous me manquez, les gars. Tous les jours, le boulot qu'on faisait ensemble. Je n'aime pas cette impression de vous avoir laissé tomber. Parce que vous êtes mon équipe. Vous l'avez toujours été, et pourtant il faut reconnaître que tout le monde ne voudrait pas d'un élément aussi entêté et dirigiste que moi. Je le sais bien. J'en ai conscience.
Tu as fini?
Je crois.
Parce que ce n'était pas un test. Même si c'est vrai que tu es entêté et dirigiste.
Je sais.
Et que tu devrais davantage nous faire confiance.
Je sais.
Mais tu es comme tu es. Je te connais, Didi. Et même la plupart du temps, quand je ne suis pas totalement exaspérée, agacée ou fou d'inquiétude, je t'aime bien. Bon, maintenant qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que j'avais raison et que tu avais tort, tu viens avec moi ou pas?
Si je viens avec toi?
Sur la scène de crime, voir le cadavre. Mais c'est moi qui conduis.
Didi ne se le fit pas dire deux fois. Ça marche.
Tu ne vaux pas tripette comme superviseuse.
Oui, je me le suis souvent dit, répondit-elle, ce qui ne l'empêcha pas de décrocher sa veste en cuir pour quitter son bureau. Alors, où on va? Demanda-t-elle en suivant Phil dans le couloir avec le sentiment que la vie reprenait enfin son cours normal.
Matapan.
Encore? Pourquoi est-ce que tous les cadavres sont toujours planqués là-bas?
Il y a des quartiers qui veulent ça.
La réserve naturelle gérée par la société Audubon, du Massachusetts à Matapan, se situait sur les terrains d'un ancien hôpital psychiatrique. Ce fait était particulièrement présent à l'esprit de Phil et Didi au moment de faire le tour du parc en longeant la grille en fer forgé finement ouvragée qui séparait ce surprenant bois de feuillus de l'épaisse jungle urbaine alentour. Car ce parc ne leur était pas inconnu. Ils l'avaient déjà arpenté à l'époque où la carcasse de l'asile désaffectée et ses vitres brisées contemplait encore les passants depuis le sommet de la colline. Ils savaient tout des spectres qui hantaient les lieux et des cadavres momifiés de six fillettes qu'ils avaient remontés d'une fosse souterraine la dernière fois qu'ils étaient venus. Lorsqu'elle suivit Phil vers le premier sentier en sous-bois, Didi fut parcourue d'un frisson qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. En théorie, l'hôpital psychiatrique n'était plus qu'un lointain souvenir. La moitié du parc était devenue le Boston Nature Center, qui abritait 150 espèces d'oiseaux et 350 espèces de plantes au cœur d'un quartier très dense, où la plupart des maisons mitoyennes ne vieillissaient pas bien. On venait des quatre coins de Boston pour marcher dans ces sous-bois, écouter les oiseaux, admirer les papillons.
Si le parc apparaissait parmi les destinations fréquentes de Devon Golding, cela voulait peut-être simplement dire qu'il aimait communier avec la nature. Sauf que le parc représentait aussi un espace naturel de taille conséquente et relativement isolé. Autrement dit, le lieu idéal pour enterrer un cadavre. On avait fait venir la brigade cynophile à la première heure le matin même, avait expliqué Phil. Il leur avait fallu moins de 20 minutes pour découvrir le poteau rose, un petit monticule de terre jouxtant un creux de même longueur dans le sol, qui tous deux commençaient à être reconquis par la végétation. Lorsqu'ils cherchent un cadavre, les non-initiés sont généralement attirés par le monticule. Mais les pros comme ceux du service de médecine légale de Boston savent que c'est une erreur. Le monticule est formé de toute la terre que l'assassin a retirée quand il a creusé la fosse et déposé ses pelletés sur le côté. Le creux. Voilà où se trouve la tombe. C'est là que l'assassin a enseveli le corps avant de le recouvrir de terre en quantité juste suffisante pour niveler plus ou moins le terrain. Sans jamais songer aux conséquences qu'aura la putréfaction. Les chairs et les muscles finiront par se décomposer, se détacher des os, se liquéfier et pénétrer dans le sol. Et si jamais des mouches ont trouvé moyen de pondre des œufs sur le corps avant qu'il ne soit enseveli, le processus s'en trouvera accéléré. Sans parler des petites bêtes qui se jetteront sur cette nouvelle source de nourriture sitôt qu'elle sera introduite dans leur environnement. Les tombes de faible profondeur connaissent une évolution bien spécifique. Mais au bout du compte, tous les corps se conforment à leur destin. Ils se décomposent. Poussière, ils retournent en poussière. Ils disparaissent dans la terre. Une cuvette de forme caractéristique se sera formée, le genre de creux qui fera aussitôt dire à un enquêteur de quelque expérience « Hé, je vous parie qu'il y a un cadavre enterré là !» Toute l'équipe du légiste était sur le terrain. Une exhumation de ce type suit le même protocole qu'une fouille archéologique, et une zone jonchée de feuilles était déjà quadrillée. Chaque pelletée de terre retirée était déposée dans un récipient étiqueté pour être tamisée ultérieurement, au cas où elle contiendrait d'autres indices. Didi le savait. La levée du corps prendrait toute la journée. Et il faudrait des semaines, voire des mois, avant que Ben ne rende un rapport définitif. Phil et elle s'approchèrent, tout en veillant à rester à bonne distance. Ben Whitley était excellent dans sa partie, moyennant quoi il savait défendre son territoire et supportait assez mal les âneries des flics. Il avait aussi eu une liaison avec Neil, le troisième de l'équipe. Après la rupture, tout le monde s'était montré professionnel, mais rien n'avait plus été comme avant. « Salut Ben !» lança Phil pour ouvrir les hostilités. En guise de réponse, il reçut un grognement de la part de l'homme de belle carrure penché sur la tombe. Celui-ci semblait balayer la poussière avec une brosse. Didi reconnut ses gestes pour les avoir déjà vus en pareilles circonstances. On avait creusé jusqu'au corps, et Ben époussetait à présent la fine couche de terre qui restait sur la peau momifiée ou sur les os, selon l'état du cadavre. D'aussi près, Didi sentait une odeur de décomposition, mêlée à l'odeur de tourbe de la terre et des feuilles d'automne. Donc les restes n'étaient pas encore totalement réduits à l'état de squelette, ce qui était cohérent avec la date de disparition des victimes.
Homme ou femme ? Demanda-t-elle.
Contrairement à Phil, elle ne perdait pas de temps en mondanité. Accessoirement, elle savait que cela la mettait dans les petits papiers de Ben, qui lui non plus n'en avait que faire.
Femme.
Date du décès ?
Très drôle.
Didi et Phil échangèrent un regard. Manifestement, cette question ne trouverait sa réponse qu'à la morgue. Logique. Dans les tombes superficielles, la vitesse d'altération du cadavre peut varier du tout au tout suivant la profondeur, l'activité des insectes, toutes sortes de facteurs. Pour estimer la date du décès, Ben allait devoir analyser des échantillons de terre prélevés sous le cadavre, et encore se plaindrait-il de ne pas pouvoir être très précis. C'était un jour où il faisait meilleur être enquêteur de la brigade criminelle que médecin légiste.
Vêtements, bijoux, autre trait distinctif utile pour l'identification ?
Demanda Didi. À titre personnel, elle espérait la présence de prothèses,
car celle-ci, qu'il s'agisse d'implants mammaires ou de genoux artificiels, possède des numéros de série qui permettent de remonter jusqu'au receveur.
« J'ai une boucle d'oreille !»
indiqua Ben sans lever la tête.
« Une créole dorée. Des vêtements. Un jean, peut-être. Un t-shirt en coton. Pas moyen de te dire s'il y a des objets dans les poches. J'en suis pas encore là. »
Didi se tourna vers Phil. Neil et moi avons retrouvé une pile de photos de Nathalie Draga dans la chambre de Golding. Je n'ai pas souvenir qu'elle portait des créoles.
Je vais appeler Neil pour lui demander de vérifier. Et Christy Kilker ?
On n'a pas trouvé de photos d'elle, seulement son permis de conduire.
Il peut aussi y jeter un œil, juste au cas où elle porterait des créoles sur cette photo-là.
Didi approuva, même si la probabilité était faible. Certaines femmes portent invariablement les mêmes boucles d'oreilles, mais une minette de 20 ans qui faisait la noce. À tous les coups, Christy avait des accessoires assortis à chacune de ses tenues.
« Cheveux bruns, apparemment »,
les informa Ben depuis la tombe. Cela pouvait être Nathalie aussi bien que Christy.
« J'ai des traces sur les ongles. Du vernis. Rose foncé, rouge. Est-ce qu'une de vos disparues se faisait des manucures ?»
Phil nota ce détail. Encore une question à poser.
« Tu es sûr qu'il n'y a qu'un seul corps ?»
lança Didi. Ben leva enfin la tête et la crucifia d'un regard.
« Oublie !»
Même Didi savait quand une retraite précipitée s'imposait.
« Alors, voilà. »
Elle s'efforça de bien choisir la question suivante.
« Nous avons deux disparus. La première a été vue pour la dernière fois il y a 9 mois. »
Nathalie Draga, qui n'était jamais allée chercher sa dernière paye.
« Et l'autre s'est volatilisée il y a environ 5 mois. »
Christy Kilker, qui n'avait appelé sa mère qu'une ou deux fois depuis qu'elle était soi-disant partie en Italie.
« À choisir entre les deux ?»
dit Ben en se remettant à épousseter.
« Je t'écoute. »
« Le cadavre est assez frais. Je dirais qu'il est là depuis 2-3 mois. »
Didi regarda Phil.
« Ça nous apprend seulement depuis combien de temps le corps est enterré ?»
fit remarquer ce dernier.
Nathalie Draga a disparu depuis 9 mois. Mais ça ne signifie pas qu'elle a été tuée à ce moment-là.
Didi voyait ce qu'il voulait dire. Il manquait d'informations sur Golding et sur son mode opératoire. Avait-il gardé les filles en vie pendant un certain temps? Les photos obsédantes de Nathalie Draga allaient dans ce sens, mais il n'avait aucun indice concernant Christy, à part un permis de conduire ensanglanté. Elle aurait bien aimé poser ses questions à Golding. Mais celui-ci n'était plus là pour répondre. Merci, Flora.
Appelle la mère de Christy, dit-elle finalement à Phil. Interroge-la sur ses boucles d'oreilles préférées, le vernis à ongles. Elle pourra peut-être nous donner de premiers éléments.
Phil hocha la tête et s'éloigna vers un autre bosquet pour passer son coup de fil. Restée seule, Didi regarda le légiste retirer soigneusement la terre de la dépouille d'une disparue qui, elle, au moins, allait enfin rentrer chez elle.
Rose bonbon,
revint lui dire Phil un quart d'heure plus tard.
Le vernis à ongles préféré de Christy. Elle en mettait tout le temps. Elle aimait aussi beaucoup une paire de créoles en or que sa mère lui avait offerte pour ses 16 ans.
Christy Kilker, dit Didi.
Pas suffisant pour une identification formelle.
Non. Il va encore falloir attendre que Ben nous fasse des miracles dans son labo, mais selon toute vraisemblance...
Christy Kilker.
Dans ce cas, où est Nathalie Draga? Sur un deuxième site? Est-ce qu'il y aurait d'autres destinations fréquentes dans le GPS de Golding?
Aucune qui conviendrait pour planquer un cadavre. C'est là ou rien.
Et les chiens ont exploré tout le parc?
Oui.
Alors, où est Nathalie Draga?
Répéta Didi. Phil n'avait pas de réponse. Didi regarda autour d'elle. Les arbres, les badauds, les techniciens de scène de crime qui s'activaient dans leurs blouses bleues.
Phil, qu'est-ce qu'on n'a pas vu?
Elle appela Samuel Keynes, sans savoir pourquoi. Il n'était pas enquêteur, mais victimologue. Il ne courait pas après les criminels, il accompagnait les victimes. Et cependant, tout dans cette affaire les ramenait à Flora Dane. Or, étant donné qu'elle avait disparu, le docteur Keynes était la personne la plus proche d'elle qu'il pouvait contacter. En soi, l'information était intéressante parce que, en pareille situation, Didi aurait dans 9 cas sur 10 ciblé la mère. Mais même si Rosa protégeait farouchement sa fille, leur relation était tendue. D'ailleurs, après l'incident de vendredi soir, Flora n'avait pas appelé sa mère, mais son ancien spécialiste des victimes. Keynes décrocha dès la première sonnerie, presque comme s'il attendait son coup de fil. « Est-ce que le nom de Nathalie Draga vous dit quelque chose ?» lui demanda-t-elle.
« Non. »
« Et Christy Kilker ?»
« Non. »
Flora n'a jamais prononcé ces noms. Elle n'a jamais parlé de retrouver l'une ou l'autre de ses femmes.
« Non, commandant. »
« Mais elle vous a parlé de Stacy Summers, n'est-ce pas ?»« Je vous en prie. C'est le moment d'être franc, docteur, parce qu'on vient de retrouver un cadavre et que je suis pratiquement certaine que d'autres vont bientôt suivre. » Flora vous parle. Elle vous confie des choses qu'elle ne dit à personne d'autre, même pas à sa mère. Alors que vous a-t-elle dit au sujet de Stacy Summers?
Le coup de fil de samedi matin a été mon premier contact avec Flora depuis un bon moment. Au moins 6 mois. Nous ne sommes pas si proches que cela, commandant. Beaucoup moins que vous ne le croyez.
Mais elle se confie quand même à vous et rien qu'à vous? Ce matin, j'ai eu une discussion avec l'agent du FBI qui l'a libérée. À l'entendre, elle se pose beaucoup de questions sur les activités de Flora pendant la période où elle était avec Jacob Ness. Mais Flora refuse de répondre. Elle ne veut parler qu'à vous.
J'ai rendu un rapport complet sur les déclarations de Flora. Contrairement à ce que vous laissez entendre, tous les éléments portés à ma connaissance ont été mis à la disposition des enquêteurs. Quant au fait que Flora n'ait pas envie de revenir X fois sur ce qu'elle a vécu, ça n'a rien d'inhabituel pour quelqu'un qui a subi un traumatisme aussi violent.
Est-ce qu'elle a été sa complice? Est-ce qu'elle l'a aidé à kidnapper d'autres victimes?
Elle ne m'a rien révélé de tel.
Mais est-ce que c'est le nœud du problème? La raison pour laquelle elle s'amuse à jouer les justicières? Elle se sent coupable d'avoir survécu? Elle veut laver sa conscience des crimes qu'elle a commis pendant sa captivité?
Vous en savez autant que moi.
Non, c'est faux. D'abord, c'est vous, le spécialiste, et ensuite, elle vous fait confiance. Et elle continue à vous appeler. Dès qu'elle a un problème et qu'elle a besoin d'aide, c'est votre numéro qu'elle compose. Au bout de 5 ans, docteur, combien de familles vous appellent encore au bout de 5 ans? Keynes ne répondit pas. Et puis, il y a sa mère, continua Didi, qui réfléchissait à voix haute. Rosa Dane. Elle aussi a l'air de bien s'entendre avec vous. Elle vous a mis dans ses contacts préférés ou bien c'est vous qui l'appelez? Parce que Flora ne le fait pas et que vous savez que ça la contrarie? Didi se souvint alors de la façon dont la veille, dans son bureau, Keynes avait posé sa main sur l'épaule de Rosa. De la façon dont il s'était tenu comme un roc à ses côtés, alors qu'il n'avait à proprement parler aucune raison d'être là. Mais il était venu, à la demande de Rosa. Et il était resté. Rosa est le bon docteur. Est-ce que Flora est au courant? Lâcha Didi. De la relation que vous entretenez avec sa mère. Vous lui en avez parlé?
Commandant, est-ce que vous avez de nouvelles pistes concernant la disparition de Flora?
Répondez d'abord à ma question.
Certainement pas.
C'est une question pertinente.
Absolument pas. De votre côté, avez-vous de nouvelles informations?
Rosa est là, comprit d'un seul coup Didi. Elle est à côté de vous et elle demande des nouvelles de sa fille. Keynes ne répondit pas. Et Didi prit cela pour une confirmation. Rosa n'est pas au courant, n'est-ce pas? Continua Didi à voix basse. Vous ne lui avez jamais parlé de vos sentiments pour elle.
Je vous assure.
Je sais. Je me trompe. Vos relations avec cette famille sont d'ordre purement professionnel, en digne agent du FBI que vous êtes.
Commandant.
J'ai un cadavre sur les bras. Une des femmes dont nous pensons qu'elles ont été enlevées par Devon Golding. Nous avons trouvé sa dépouille grâce à des indices découverts chez lui.
Vous pensez avoir retrouvé une des victimes de Golding? Autant dire que Flora a eu raison d'agir comme elle l'a fait vendredi soir. Si elle ne l'avait pas tué, ce serait peut-être son cadavre que vous seriez en train d'exhumer.
Flora a disparu. Et ce qui lui est arrivé a forcément un rapport avec Devon Golding, Stacy Summers et au moins deux autres disparus. Cette suite d'événements ne peut pas être une simple coïncidence, alors je vous repose la question. Est-ce que Flora a un jour prononcé les noms de Christy Kilker ou Nathalie Draga?
Et moi, je vous répète qu'avant samedi matin, je n'avais pas parlé à Flora depuis des mois.
Réponse qui m'apprend seulement quand vous avez parlé avec elle, mais pas ce qu'elle vous a dit. Allons, Keynes. Je ne suis peut-être pas psy, mais je ne suis pas idiote pour autant.
Avez-vous de nouvelles pistes concernant la disparition de Flora, commandant?
Non.
Alors appelez-moi quand ce sera le cas.
Keynes raccrocha. Didi resta là un moment à grincer des dents. Une fois de plus, elle s'interrogeait sur la relation qui unissait le spécialiste des victimes et la famille Dane, sans arriver à se défaire du sentiment qu'il ne lui disait pas tout.